A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il paraît que le rêve américain s'est fait doubler par le rêve coréen en Asie. Je veux dire, dans certaines têtes, n'est pas loin de la Tour Eiffel. Notre invité en sol majeur, qui a vu le jour en Normandie, vit aujourd'hui très très loin de ses ancêtres gaulois et vikings. Ida Dossi, arrivée en 91 au pays du matin frais ou matin clair, ça je sais pas trop, a très vite acquis le statut de star française de la télévision coréenne. Après des études internationales et un stage dans ce pays lointain, Ida tombe amoureuse du pays et de l'amour à la coréenne. Et c'est au bras d'un séoulien qu'elle incarnera désormais la petite fiancée française des Coréens. Mais 27 années de vie sud-coréenne amèneront aussi l'envers du décor télévisuel. Un divorce, le racisme, la misogynie, le poids de la tradition, mais aussi l'extraordinaire vitalité pimentée de cette jeune démocratie qu'elle analyse sous toutes les coutures dans son deuxième ouvrage intitulé « Corée à cœur ». Bonjour Ida Dossi.
Bonjour.
Quel beau titre.
Corée à cœur, c'est vraiment une histoire qui me tient à cœur.
C'est traduisible en coréen, ça, Corée à cœur ?
Alors, pas tel quel, ça ne sonnera pas pareil. Ce qui me plaisait bien aussi dans le choix de ce titre, c'était un petit peu le double sens. Corée à cœur, parce que ce pays, cette histoire me tient à cœur, c'est quand même ma vie personnelle. Et puis, j'ai essayé, via cette histoire, de vous emmener au cœur de la Corée.
Voilà. Alors personnellement, je ne suis jamais allée à Séoul. Je sais que je suis invitée dans l'heure. Hein, maintenant.
Vous l'êtes.
Séoul, c'est environ 10 millions d'habitants, donc la troisième mégapole la plus peuplée au monde après Tokyo et Mexico. Et c'est situé à 45 km de la fameuse zone démilitarisée.
Oui.
Mais Séoul, ce n'est pas que ça. Ida Dossi sur RFI, Séoul, donc visage étranger devenu familier pour vous. Un petit inventaire de ce qu'on entend.
Alors là, au début, on entend un marché avec un commerçant donc, qui aile un petit peu donc, ses clients, qui les appelle. Et ensuite, on entend aussi le son dans le métro, les voix un peu sucrées qui annoncent « tournez à droite, tournez à gauche, la porte va s'ouvrir, faites-ci, faites ça ». C'est drôle de voir soudain la modernité arriver sur un marché comme ça coréen. Et puis ensuite, vous avez une espèce de musique de trotte, un peu plus traditionnelle, un peu plus lancinante.
Les années 30
Même plus récent que ça, on va dire, allez, 60, 70, on les entend encore régulièrement. C'est les musiques qu'affectionnent les anciennes générations à mille années-lumière de la K-pop qui occupe la jeunesse d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous séduit, vous, dans cette ville ?
Dans cette ville, ce qui me séduit, c'est que Séoul est extrêmement moderne, c'est vrai, mais il y a aussi énormément de quartiers anciens, de vieux bâtiments, de temples, de palais. C'est vraiment à mi-chemin entre tradition et modernité, comme la société coréenne. Et cette ville qui, on dirait, ne dort jamais.
Mmh. Un petit polaroid comme ça de l'architecture. Est-ce qu'il y a des traces de la fameuse dynastie, je ne sais pas comment on prononce ça, Joseon ?
Donc la période Joseon, oui, bien sûr. Chaque période...
Joseon, c'est quand ?
Joseon, c'est une période donc, de la fin du 19e jusqu'au, on va dire, au début du 20e. Personnellement, l'histoire d'une ville, le retrouver dans certains quartiers l'histoire d'un temps résolument passé, c'est important pour moi. Et Séoul...
Alors c'est quoi ce coin résolument passé qui vous tient à cœur,
eh bien,
par exemple,
j'ai déménagé dans le nord de la capitale, derrière donc maintenant la Maison Bleue, le palais, et dans ce quartier du nord, donc Kugidong, vous avez encore des pagodes, vous avez encore des petites galeries, des petits quartiers sympas où il n'y a pas encore de grands buildings gratte-ciel qu'on trouve dans les quartiers du sud, Gangnam, pour ne pas le citer par exemple.
Mmh. Ouais. Vous êtes pile électrique vous-même, comme la ville ?
Je crois que je suis devenue... C'est certainement l'une des raisons en fait, qui m'a poussée à m'installer là-bas. J'aime bien qu'il y ait du réactif, etc. Quand on se lance dans divers projets, et Séoul, c'est une ville pour ça.
Alors Séoul, c'est la ville, vous venez de le dire, de la K-pop, pop coréenne.
Ouais.
On va donc passer par la case Kim Kung-mo.
J'adore Kim Kung-mo. Alors ça date un petit peu, c'est les années 90. Hein. Peut-être que la nouvelle génération ne connaît pas, mais j'adore.
Son pardon, c'est le titre, vous plaît pour quelle raison ?
Ce sont des chansons que j'ai énormément écoutées, entendues lors de mes premières années en Corée. Donc évidemment, ça évoque tout un tas de souvenirs avec les amis, avec les copains.
Les amours.
Voilà, on va dire ça, absolument.
C'est reggae, hein.
Ah oui, j'aime bien, c'est sympa. C'est les années 90, début 2000 en Corée.
지금도 이해할 수 없는 그 얘기로 난 핑계를 대고 있어. 내게 그런 핑계 대지 마. 입장 바꿔 생각을 해봐. 네가 지금 나
pop, un peu reggae,
j'adore.
Coréen néanmoins, c'est Kim Kun-mo, ouais. Pour l'ensemble majeur d'Ida Dossi, je prends des cours de coréen en accéléré. Ida Dossi, contrairement à Séoul, peut se balader incognito à Paris.
Ascension.
Votre histoire, Ida, c'est vrai, c'est l'histoire d'une ascension presque fulgurante. Tout démarre d'une maîtrise de commerce internationale, option Asie-Corée du Sud, puis d'un stage en Corée qui vous donne un peu le virus du pays, au point de vous immerger, puis de vous ancrer complètement. Mais indépendamment de ces circonstances, c'est-à-dire les études, qu'est-ce qui culturellement vous séduit presque immédiatement, au point de vous dire « je veux vivre en Corée » ?
Eh bien, cette bonté naturelle qu'ont les Coréens vis-à-vis des autres, on va dire qu'avait. Je suis désolée d'employer soudain l'imparfait parce que tout récemment ça change un petit peu.
C'est un nom ça en Corée ?
Le Jang, absolument, le fameux Jang. Les gens sont naturellement sympa, doué d'une espèce de bienveillance, toujours prêt à aider leur prochain, surtout un étranger, une étrangère un peu perdue, un peu paumée, soudain en plein milieu de leur culture ou de leur pays. J'ai toujours eu affaire à des tas d'anges gardiens, des gens super gentils, super sympas, lors de mon stage tout d'abord, et puis ensuite dans la société, et j'avais trouvé ça effectivement très 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 agréable. Et puis aussi, ce positivisme, quand bien même la Corée revient de très loin, quand je suis arrivée dans les années 90, les gens étaient encore en train de travailler extrêmement dur pour le développement, les gens sont toujours en général plutôt positifs. Toujours prêt.
Vous dites ça avec vos petits poings musclés, là.
Oui.
C'est la guerre. C'est pour ça qu'on l'appelle le pays du matin. Alors, frais ou clair, d'ailleurs ?
Frais, clair ou calme. Alors, c'est une bonne question. Techniquement, c'était donc Choson, qui avait été traduit par les premiers missionnaires comme pays du matin calme. Et c'est en fait une traduction erronée, puisque techniquement, si on traduit comme ça, c'est le pays du matin clair ou frais. Mais le pays du matin calme a été repris de ci, de là, dans bien des ouvrages depuis, et c'est presque devenu aujourd'hui une constante. Donc, donc on ne fait pas vraiment d'erreur.
Pourquoi on appelle ça comme ça, finalement ?
Alors, probablement que par le passé, effectivement, quand le soleil se levait sur Séoul et les champs avoisinants, etc., ça devait être un tant soit peu calme. Je peux vous assurer que la Corée d'aujourd'hui n'a rien de calme et qu'elle est trépidante. Je veux dire 24 heures sur 24, on va dire, oui.
Au début, c'est la langue française qui vous ouvre les portes.
Effectivement. Alors, loin de moi l'idée, au début, de travailler pour les médias. C'était pas le but du jeu. Moi, je me destinais à une carrière beaucoup plus business, entre Europe et Corée. Et puis, effectivement, une fois sur place, bon, j'étais venue avec un emploi que j'avais trouvé de France, donc je commence à travailler. Et très vite, la télévision me démarche pour une émission, donc sur la chaîne EBS, Education Broadcasting System, la chaîne éducative, qui diffuse 24 heures sur 24 des cours en tout genre au public. Et on me demandait d'animer deux fois par semaine l'émission de français en français.
Vous donnez des cours de conversation française.
Exactement. Donc au début, en binôme avec un jeune français et avec un modérateur coréen. Qu'est-ce qu'on a pu rire. C'était chouette. Et puis très vite, on m'a demandé d'écrire aussi les scripts. Très vite, on m'a demandé de jouer aussi dans les scénettes.
Et la française.
Voilà, exactement. Mm. C'est ce qui m'a fait probablement remarquer un tant soit peu dans le monde des médias.
Et puis il y a l'amour avec, comment on prononce le prénom du père de vos enfants ?
Changsu.
Changsu, et ce mariage va vous ouvrir évidemment d'autres portes coréennes, comme vous le racontez dans votre premier livre, Ida au pays du matin clair.
Ilona, Ilona, 벌써 8시야. Debout, debout, réveillez-vous, il est 8h. Hmm? Yeah, 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 됐습니다, 어머님. Oui, oui, ça y est, belle maman. La voix tonitruante de ma belle-mère déchire le calme et la fraîcheur de ce qui aurait pu être une délicieuse petite matinée de congé au pays du matin clair. À mes côtés, mon mari, Changsu, ronfle, paisiblement. Notre maître de cérémonie du jour est encore loin, au pays des rêves. Il ferait bien d'atterrir vite fait, lui aussi, s'il ne veut pas voir sa mère débouler en hurlant dans notre chambre. Ilona ! C'est aujourd'hui Solnal, en Corée du Sud, le nouvel an lunaire. L'une des deux plus grandes fêtes nationales du pays, avec Chuseok, la fête de la lune.
On est d'accord, Ida Dossi, pour RFI, une des clés pour connaître vraiment un pays, c'est le mariage.
Alors, oui, on va dire c'est la langue. Alors, attention, il faut que je fasse très attention là. Conseil de grande sœur, c'est la langue, voilà. N'allez pas vous marier pour découvrir la Corée, vous pouvez vous découvrir la Corée
et
la culture.
C'est pas ce que je sous-entendais, d'accord. Que ce soit clair. Mais cette rencontre avec les codes d'une culture quand même encore très traditionnelle, cette belle-mère qui vous tire du lit pour honorer les ancêtres, ça n'a pas heurté l'occidental que vous étiez, que vous êtes encore un peu.
J'avais tellement envie de rentrer dans ce rôle. Bon, nous on était amoureux, mais la belle famille m'a pas accueilli à bras ouverts au début. Ça a été un réel défi. Et donc j'avais voulu bien faire. Je leur avais promis, juré que je ferais tous les efforts nécessaires pour rentrer dans le costume. De la belle fille, si je puis dire, exemplaire.
Mais par obligation ou par curiosité exotique ?
Au début, bon, ça a été une certaine curiosité, certainement oui, par obligation, parce que j'étais mariée. Donc techniquement, c'en est une d'obligation. La belle-fille doit diriger, aidée par sa belle-mère, cette cérémonie des ancêtres. On se lève tôt et on doit mettre sur la table d'une manière bien particulière tous les petits plats qu'on propose aux fantômes, aux ancêtres.
Certains posés à l'est, certains posés à l'ouest.
Exactement, tout à fait, suivant les couleurs, tout à fait. Poisson plutôt côté est, les viandes de l'autre côté, les fruits plutôt rouges côté de l'est, là encore, là où le soleil se lève. Oui, oui, c'est très, très codé. J'avais appris tous ces codes. J'ai fait des efforts, d'énormes efforts pour apprendre à cuisiner correctement, pour apprendre tout ça. J'avais vraiment sincèrement envie de bien faire, franchement.
Par curiosité. Et ensuite, vous prenez au jeu, parce que ça peut être un poids, ça peut devenir pesant une fois les premières années d'émerveillement passées.
Mais bien sûr, vous avez raison. Moi, je ne pouvais pas devenir coréenne. Non, c'est certain, je n'ai pas grandi comme ça non plus. Mais disons que quand on était avec ma belle-mère, dans ses traditions à elle et dans ses traditions familiales, j'estimais pouvoir faire l'effort, un moment, vers cette culture. Après, à la maison, avec le père de mes enfants et mes enfants, j'étais moi-même. Je veux dire, je ne me suis pas transformée non plus.
Alors, il faut dire que votre couple, qui est donc un des premiers couples multiculturels, fascine totalement cette Corée des années 90.
Exactement. Au début des années 90, le gouvernement vient tout juste, en fait, de décider qu'il serait judicieux d'inviter des jeunes femmes d'Asie du Sud-Est pour venir se marier avec des hommes dans les campagnes coréennes, des hommes qui ne trouvent plus...
Dépeuplés
Drastiquement dépeuplés, oui. Effectivement, tout le monde part en ville pour étudier, et donc des jeunes filles, il n'y a plus vraiment, beaucoup d'hommes qui ont hérité des terres. Et on commence à faire venir donc des jeunes mariés, voilà. Sauf que bon, moi, j'étais pas venue dans ce cadre-là. J'arrive dans le cadre de mes études. Boum, je tombe amoureuse de la zone et je rencontre ce Coréen dont je tombe complètement amoureuse. À l'époque, je ne suis pas de la secte Moon. Là encore, via la secte Moon, nombreux sont ceux qui sont venus se marier en Corée du Sud. Je ne suis pas une GIs américaine qui souhaitait non plus, voilà. Donc juste une Française étudiante qui arrive avec ses valises, qui tombe amoureuse d'un Coréen, une histoire tout à fait banale. Et ça fait boum à la télévision. Les gens ont trouvé ça tellement romantique.
Et vous êtes reçus sur les plateaux de télé pour raconter, voilà, qu'est-ce que c'est que de vivre dans un couple multiculturel.
Exactement. Donc, vers le milieu des années 90, je suis invitée donc par KBS, qui se trouve être la plus grande chaîne de télévision coréenne, qui m'invite donc pour parler de mon expérience de couple international avec mon mari. Et ça a fait un buzz d'enfer.
Et alors vous, donc Ida Dossi, après de nombreuses expériences médiatiques, vous rentrez complètement dans le cœur, dans le salon et sur l'écran plat des familles coréennes.
Joy Jingming Nook Jung입니다. Dossi, Ida, Noël, Daniel, Joy Irumieo. Dossi, Songieo. Dossi. Kurigo Ida, Joy Pumoni Manteso Padaton Irumigoyo.
Ida Dossi en coréen pour un sol majeur sur RFI. Oh là là.
Oh là là, mais oui.
Alors ce oh là là.
Alors c'est un hasard total, une sorte de petit accident incroyable. En parlant coréen, il m'arrivait très souvent, déjà vous le voyez là, les auditeurs ne me voient pas, mais j'utilise énormément mes mains et souvent il y a des petites choses comme ça, oh là là, ou des sons qui viennent.
Des expressions faciales,
certes.
Vos sourcils, faites attention.
Et puis donc ce oh là là qui revenait de manière récurrente et ça a beaucoup fait rire les Coréens, qui pensaient que j'avais inventé le son, le mot. Et très vite, je suis devenue Madame Olala, en quelque sorte. On m'appelait comme ça. Si vous déclamez un Olala dans un taxi séoulite, très forte chance qu'on vous demande si vous me connaissez. Et après, bon, j'ai expliqué. Donc, dans cette émission que vous venez d'entendre, j'explique que c'est en fait quelque chose d'usité, d'utiliser largement par les Français en général quand ils parlent et que le ton dépend du sentiment à exprimer.
Donc vous devenez là aussi une curiosité exotique pour les Coréens. Je suis désolée de vous le dire.
Non, mais j'assume totalement. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était plutôt ça, tout à fait.
Mais à vous lire dans Corée à cœur, il y a malheureusement une autre clé pour bien connaître un pays, c'est le divorce. Car pour vous, petite fiancée française des Coréens qui allait divorcer, ce qui devait être vécu normalement comme un drame intime va devenir, on peut dire, un vrai débat national.
C'est devenu un vrai débat national. Ça a fait la une de la presse à l'époque. En fait, j'ai eu énormément de chance en Corée où j'ai vécu énormément de très très belles choses et j'ai commencé ma vie de femme là-bas. J'ai eu mes deux enfants et puis j'ai aussi eu quelques drames dans ma vie, notamment ce divorce qui techniquement peut être un non-événement dans une vie. Ça arrive. Sauf que là, ce couple qui avait toujours été très médiatique. Et puis mon amour pour la Corée aussi singulièrement a été remis en cause à cause de ce divorce. Les gens y ont vu quelque part une trahison. Voilà, il y a eu
Il y a eu ça et puis le fait que le divorce est encore un tabou à ce moment-là.
Alors pourtant, il y a énormément.
Aujourd'hui,
à l'époque déjà, mais on n'en parlait pas. Tabou énorme. Il n'y a pas de divorce là-bas à la cool où on garde un temps soit peu le contact pour les enfants, etc. Non, c'est un combat, un déchirement, un vrai déchirement social.
Et puis il y a la question numéro un qui taraude dans cette Corée encore imprégnée de confucianisme, c'est la question de la garde des enfants, encore petits dans votre cas à ce moment-là. Que prévoyait la loi coréenne ?
Alors oui, mes enfants avaient à l'époque 12 ans et 5 ans. Donc la raison pour laquelle j'ai vécu 16 ans de vie maritale et on va dire que les 6 dernières années ont été assez compliquées. Pourquoi ai-je autant attendu pour enclencher ce divorce ? Je ne connaissais pas mes droits. Et par le passé, traditionnellement, les enfants appartenaient à la famille du père. C'est le droit du sang. Donc, les enfants restaient auprès du père. Et j'étais restée sur ça. Je ne connaissais pas bien mes droits, je ne connaissais pas la loi locale. Et j'avais la terreur de me renseigner, qu'on sache que je me renseignais sur le sujet. Donc, actuellement, au XXIe siècle, la Corée du Sud est un pays de droit. Ce droit social est directement influencé, calqué sur le droit européen, japonais, donc nous, très protecteur, en l'occurrence extrêmement protecteur pour les enfants. Et on n'arrache pas en Corée du Sud ses enfants à une mère, non. Avant de prendre une avocate qui m'a mis un peu au parfum, j'ai effectivement eu bien des nuits blanches et c'était ma terreur en cas de divorce, de perdre la garde de mes enfants.
Mais vous avez eu beaucoup de témoignages de femmes sud-coréennes racontant que leurs enfants, elles ne les avaient pas revus après un divorce. Et vous-même, vous avez été un peu dans une forme de paranoïa qui se comprend. Vous avez été jusqu'à planquer les passeports de vos enfants.
Complètement, bien sûr. J'avais qu'une terreur, c'est que mon mari comprenne ma future démarche. Et j'avais qu'une terreur, c'est de voir disparaître mes enfants. Il est arrivé, dans bien des cas, des mariages franco-coréens ou même sino-français ou des mariages internationaux où une partie du couple enlève les enfants avec aucun recours pour l'autre partie de revoir ses enfants. Alors, divorce, je le concevais bien, mais j'étais pas contre l'idée de faire aller venir les enfants entre les deux parties. Vous voyez, j'ai deux fils à élever, c'est aussi de futurs hommes. Donc voilà. Mais à l'époque, mon ex-mari n'était pas du tout sur cette veine-là. Et pour lui, divorce, c'était casser la famille ad vitam aeternam. Et donc, il souhaitait bien récupérer les petits.
Et vous avez gagné.
Ah oui, c'est terrible à dire. Hein. Oui, voilà, c'est pas une victoire pour laquelle on a envie de hurler hourra, mais j'ai eu très 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 peur. Et effectivement, techniquement, suivant la loi coréenne aujourd'hui, je suis chef de famille.
Est-ce que, Ida Dossi, votre carrière médiatique a été impactée par divorce ?
Ça a été un réel tsunami, parce qu'après ce tremblement de terre personnel, effectivement, c'est enclenché une sorte de tsunami professionnel. Vous imaginez, du jour au lendemain, boum, vous êtes numéro un des têtes de recherche sur les réseaux sociaux, les journaux.
Très connectés, les Sud-Coréens.
Ah, c'est le pays le plus connecté au monde, donc tout le monde savait déjà tout, et tout le monde attendait les causes. Pourquoi, comment ? Parce que...
On lèche, on lynche, on lâche.
Exactement, tout à fait.
C'est la formule.
C'est vraiment
de...
ça, ouais. C'est tout à fait ça, mais ça a été extrêmement féroce parce que je vous dis, je voulais absolument protéger mes petits. Je n'avais pas prévu de faire les choses comme ça. Ça a été vraiment féroce. Ouais.
Mais votre cœur amoureux est toujours coréen aujourd'hui.
Ah, ouais.
Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un Serge Gainsbourg au pays du matin clair ?
Alors il y a eu effectivement un écrivain, on va dire, oui, le professeur Ma Kwang-soo. Alors il est décédé aujourd'hui, il est mort en 2017, apparemment dans un suicide. Alors bon, pas parolier de chansons, mais écrivain assez sulfureux, on va dire. Et pour un livre extrêmement tendancieux, qui parlait d'une jeune fille qui s'appelait Sarah, le titre c'était Sarah la jouisseuse, l'ouvrage a été interdit par la Cour suprême, et le professeur Ma a été incarcéré. Alors que c'était un professeur très tendance, depuis les années 80 et dans les années 90 quand moi j'arrivais, pourtant à l'époque une démocratie, eh bien le sieur, le professeur Ma a fini en prison.
Ouais, notre Serge Gainsbourg a été plus chanceux.
Gainsbourg et son Gainsborough ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69.
Et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années
Gainsbourg et Birkin allongés sur le piano, c'est forcément RFI. Vous confirmez, Ida Dossi, 69, année erotique.
C'est mon année de naissance.
C'en est-il? Oui, c'était même l'année du coq en Asie.
Tout à fait, effectivement, je suis du signe du coq, c'est vrai.
Un bon signe.
Alors cette année, c'est un signe chargé de fortune, surtout 69, c'est l'année du coq de terre. Et tous les signes de terre, avec l'élément terre à leur actif, ça peut ne pas être forcément le cochon. Hein. Eh bien, cette année, 2019, signe placé sous le signe du cochon d'or, c'est une grande année. Donc renseignez-vous, si votre élément est la terre, cette année, il faut faire un bébé, il faut se marier, il faut commencer un projet, c'est une grande année.
Patriotisme.
Ah, je vous ai vu la main sur le cœur, là, tout à coup, Ida Dossi, en entendant l'hymne de Sud-Coréen.
Voilà, l'hymne sud-coréen. Avant, quand la télévision, quand les programmes commencent, on entend l'hymne coréen. Quand on fait un événement, quelque chose, dans les universités, n'importe où, quoi que ce soit, l'hymne coréen sort comme ça, et tout le monde se lève, et on met donc sa main droite sur son cœur, et tout le monde, face au drapeau, salue de manière extrêmement patriote.
Il n'y a pas de dissident.
Du Sud-Sud, si, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord avec le système. Et puis bon, les Coréens sont toujours très francs. Et pour ça, ils sont très latins. Hein. Ils sont toujours prêts à dire qu'ils pensent autrement. Ça, c'est certain.
Vous aimez bien rappeler le bon mot de Romain Gary qui disait « Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. » Alors vous qui êtes en immersion, en observation constante de cette société, où en sont les Sud-Coréens avec ces deux concepts?
Eh bien, ils vont et viennent entre les deux concepts. Ce sont des patriotes enflammés qui m'ont donné la chair de poule tant certaines de leurs actions, certains de leurs comportements patriotes, justement, sont fantastiques. Et quelquefois, effectivement, ce joli patriotisme se transforme en un nationalisme des plus féroces. Et ils sont prêts à rejeter tout ce qui n'est pas comme eux. Coréen
de souche. On a les mêmes à la maison.
Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, je pensais pas trouver ça là-bas aussi, mais je vous assure que ça peut être extrêmement féroce. Et je l'ai vécu dans ma chair, dans ma vie personnelle, avec mes enfants, en vivant en Corée. Alors jamais de manière ultra méchante et féroce de plein fouet, mais c'est diffus et c'est tout le temps. Maintenant, les Coréens sont capables de faire montre de nationalisme féroce à l'endroit d'immigrés qui viennent, par exemple, d'autres nations plus pauvres ou quoi que ce soit. Donc,
alors justement, cette question de la xénophobie est revenue en force dans le pays en 2014 au moment de la crise des réfugiés yéménites.
Ah, c'était tout récent.
Juillet 2018 aussi, oui. Sur l'île de Jeju, c'est une île touristique sud-coréenne.
La présence de ces 500 yéménites coincés sur l'île touristique de Jeju affole depuis des mois réseaux sociaux et médias sud-coréens.
C'est très triste de lire que certains médias disent que nous sommes dangereux. Mais les gens à qui nous parlons savent que c'est n'importe quoi. Un Coréen âgé m'a dit qu'il ne comprenait que la guerre du Yémen lui rappelait la guerre de Corée et ses flux de réfugiés dans les années 50. Les générations plus âgées se montrent plus compréhensives. Moi, je veux remercier le gouvernement sud-coréen de nous autoriser à travailler. C'est la première fois qu'ils accordent des permis de travail à des migrants dès leur arrivée. Nous apprécions et espérons qu'il nous donnera la permission de rester.
Le moins qu'on puisse dire en sol majeur, Ida Dossi, c'est qu'en 2014, comme en 2018 à l'instant, les habitants de l'île de Jeju n'ont pas été très accueillants pour ces réfugiés yéménites.
Ni les habitants de Jeju, ni les Coréens dans leur ensemble.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a eu quand même une majorité, on va dire pas large, mais une majorité qui comprenait quelque part la détresse de ces gens et qui était plutôt en faveur d'un accueil relatif. On avait presque quand même 40% de gens qui, je les ai vus manifester, les gens dans la rue, qui refusaient net.
Avec des slogans
extrêmement féroces. J'ai vu tout et n'importe quoi. Qui ne voulaient pas de ces gens sur le territoire. Alors on ne parle pas de 500 000, on parle de 500 yéménites qui fuyaient leur pays en guerre. Et bon, tout le monde connaît la guerre au Yémen, ça rigole pas du tout. Donc là, on refusait net leur arrivée. Pourquoi ? On a tout entendu, à savoir par exemple que les Coréens ne voulaient pas que la Corée devienne la même chose que l'Europe. Vous voyez, à ce titre, hein, donc certains mouvements féministes, pourtant je suis plutôt du côté des féministes en Corée en général, mais certains courants féministes ont même argué du fait que accueillir autant de musulmans sur le territoire, ça pouvait être dangereux pour les femmes. Vous voyez, tout et n'importe quoi.
Musulmans égale terroristes.
Voilà, donc des raccourcis terribles, une méconnaissance du sujet totale.
Mmh. Et dommage, parce que sur cette île de Jeju qui était concernée au premier chef, on aurait eu besoin de main-d'œuvre.
Effectivement, dans le secteur de la pêche, par exemple, dans le secteur du bâtiment, par exemple, pour aller travailler dans les champs, on a une cruelle manque de main-d'œuvre actuellement en raison du vieillissement de la population. On n'a plus assez de main-d'œuvre, c'est certain. Alors, les Coréens ont très vite compris que gérer cette crise au mieux, influençait énormément leur image à l'international. Ces Yéménites ont obtenu un permis de séjour humanitaire qui leur permet de rester et de travailler sur le territoire, ne leur permet pas d'avoir une couverture sociale quelle qu'elle soit. Pour le moment, ils peuvent rester, peuvent travailler.
Étrange, hein, parce que ce pays qui n'a pas de tradition, c'est pas une terre d'accueil, on va dire ça traditionnellement, mais le pays a quand même signé la Convention des réfugiés des Nations Unies en 1951. Problème d'éducation, comme vous dites. Mais que veut dire, Ida Dossi, le mot Dalminjikok?
Dalminjok.
Dalminjok.
Voilà. Donc ce concept m'a bien souvent été annoncé, lancé à la figure quand moi j'essayais juste de vivre dans la société coréenne. Techniquement, ça veut dire la race pure. Ce concept a été éradiqué des livres de cours en Corée où ils s'étaient inscrits, expliqués, jusqu'en 2007. C'était pas il y a 1000 ans, c'était 2007. Et c'est l'ONU qui demandait instamment à la Corée d'éradiquer ce terme et d'arrêter d'enseigner ça. Parce qu'avant, on expliquait aux Coréens qu'ils étaient une race pure, sur une péninsule, donc soit dire bon, il n'en est rien. Quand on regarde l'histoire coréenne, on voit bien évidemment qu'il y a eu des mélanges, des mouvements migratoires, des voyages, comme tout pays sur la planète, bien évidemment. Maintenant, les gens envisagent un petit peu le concept de manière un petit peu différente, mais je l'ai tellement entendu.
Mais les experts parlent de syndrome du pays trop souvent envahi.
Trop souvent envahi, bien sûr. La Corée a été effectivement longtemps vassale de la Chine. Elle a été envahie 35 ans par le Japon. Et ce n'est pas elle qui a bouté le Japon hors de son territoire. Ce sont les alliés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 45. Et donc, pendant cette longue histoire coréenne, effectivement. Donc pour les Coréens, étrangers riment souvent, hélas, avec intrus, envahisseurs. Vous savez, le pays, jusqu'au 19e siècle, on le prénommait le pays ermite. Le pays avait complètement été fermé aux étrangers, et ceux qui arrivaient à entrer n'en sortaient plus.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux avoir le type caucasien qu'africain, par exemple. Hein. En Corée du Sud, vous racontez, Ida Dossi, que dans la rue, la discrimination s'est clairement affichée, notamment au moment de l'épidémie d'Ebola en 2015.
Voilà, exactement. Donc en 2015, lors de l'épidémie d'Ebola, pour vous donner une idée de ce qui peut se passer en Corée du Sud, eh bien dans certains quartiers où il y a énormément de bars pour sortir, nombreux étaient ceux qui affichaient clairement interdit à toute personne de couleur pour des causes évidentes sanitaires. Donc l'Afrique est vaste, les origines variées sur la planète, mais pour eux c'était faire un raccourci drastique et de peur d'attraper le virus Ebola, ils interdisaient tout simplement leurs locaux à toute personne de couleur.
Et vous qui êtes consultante pour la qualité des programmes télé, sur notamment les questions d'immigration, voilà, Vous constatez évidemment qu'il y a des préjugés et des soucis de représentation aussi de la diversité. Hein.
Bien sûr. Alors bon, le bon côté de l'affaire, c'est qu'il nous est permis d'en parler et de le dire. Quand on constate effectivement un fait de racisme avéré, les chaînes s'excusent. On reconnaît les faits. Articles, il y a. La presse relaie aussi. On pourrait tout éteindre et tout camoufler. Non, non. Ça crée des micro-scandales, on en parle de plus en plus, ça c'est le bon côté de l'affaire. Maintenant, hélas oui. Le problème c'est que ces programmes passent et ces égarements ont toujours lieu. Par exemple, pour vous citer un exemple, tout récemment c'était une jeune fille dans un programme de comédie qui souhaitait montrer à ses parents qu'elle était capable donc de devenir actrice. Et s'était déguisée en soi-disant africaine, pour faire un raccourci terrible, portait un pull noir, avait mis des collants noirs, s'était maquillée la figure au cirage, portait un pagne de paille et un poireau sur la tête. Voyez le méga cliché. Et donc elle faisait des danses absolument incroyables sur la musique du Roi Lion. Donc effectivement, ça a fait bondir une partie de la Corée. Mais pour en arriver là, il y a quand même des gens qui sont complètement à côté des faits qui nous occupent, quoi. Racisme, pour eux, ça ne veut rien dire.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur cette question multiculturelle, parce que vous la vivez en plein cœur, si j'ose dire, Ida Dossi. Et il ne nous a pas échappé en sol majeur que vos enfants sont de sang mêlé, donc la question se pose. Mais une petite lichette d'Éric Satie pour en sol majeur. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que Satie?
Ah, j'adore, ça me calme.
Est-ce que Satie, c'est pas un peu votre Normandie?
Ma Normandie natale. Alors, si vous saviez comme je suis fière d'être normande.
Sous-titré.
Ida Dossi, quel a été votre moment le plus cocasse à Séoul?
글쎄요, 저기 뭐 서울에서 살면서 뭐 너무나 재미있는 웃기는 순간이 너무 많았지만 지금 생각해 보니까 하나 있다면 바로 혼천에 갈 때, 역시 목욕할 때 목욕탕에서 어떤 팬 만나가지고 이분이 저한테 사인 달라고 했을 때 얼마나 많이 황당했는지 저기 하긴 했어요. 분명히 사인 하긴 했어요.
Vous pensez vieillir au pays d'Emmanuel Macron ou du président Moon?
글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 뭐 이번에 결혼할 예정이거든요. 그래서 앞으로 어디서 살지 아직 모르겠지만 두 나라 사이에, 우리 두 나라 사이에 분명히 살 것 같아요.
Une question un petit peu moins personnelle. Comment les Sud-Coréens perçoivent Kim Jong-un?
글쎄요. 뭐 별로 좋게 생각하지 않습니다. 물론 요새 아무래도 상황이 좋아지는 것 같은데 어느 정도 어떤 사람들이 뭐 어떤 사람들한테 인기 있는 것 같지만 믿음직스러운 인물 아닌 것 같아요. 확실히예요. 많이들 이 김정은 못 믿겠어요. 확실하게 저 마찬가지.
Merci de nous offrir en coréen un petit moment et un petit peu de votre vie de star. la fiancée française que vous êtes pour tous les Coréens. Cela dit, on aimerait bien avoir la traduction à la dernière question.
Oui. Eh bien, Kim Jong-un, sincèrement, actuellement, l'actualité semble se réchauffer, on va dire. Donc, on l'écoute, on le regarde, on l'observe. Une partie de la jeunesse trouve même ce personnage un tant soit peu résolument sympathique. Certains auraient bien voulu le voir invité à Séoul, par exemple. Mais dans leur ensemble, les Coréens n'apprécient pas Kim Jong-un et ne le croient pas. Je pense la même chose. Ne pensent pas qu'il est complètement parti sur cette idée de dénucléarisation de la péninsule et que quelque chose se trame, hélas. Donc on observe, on attend.
Pour revenir à cette question de la langue, je vous écoute vivre, respirer, vous exalter dans les deux langues. Vous n'avez pas eu du tout de mal à apprendre cette langue?
Oui, j'ai eu du mal, mais si, bien sûr, j'ai eu du mal. Ça fait 28 ans de Corée, donc maintenant tout va bien.
On ne voit plus les coutures.
Mais bon.
Je vous assure que les premières années, ça a été compliqué quand même. Quand je prenais des cours... Bon, j'avais une formation linguistique avant de partir. Mais quand j'ai repris des cours de langue là-bas, j'étais certainement l'une des plus mauvaises élèves. Hein. Les étudiants japonais excellaient, mais j'étais la seule étudiante venue d'Europe.
Alors, c'était quoi le déclic? Parce que là, vous en êtes à être une star à la télévision quand même.
Bon, il y a eu l'amour qui m'a... Bon, vous avez bien compris que je suis aussi un petit peu bavarde sur les bords. Donc, c'était vital d'apprendre la langue et puis de comprendre les blagues. Voilà. Et puis de pouvoir interagir. Je pense que c'est ça. C'est cette envie de communiquer qui a fait que j'ai dû apprendre vite.
Vous diriez que vous êtes de double culture ou vous le reformuleriez autrement ?
Ah non, 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 je m'affirme réellement sur ce plan-là, complètement biculturel et ravie de cette situation. J'adore. Je me sens franco-coréenne, sincèrement.
Donc vous avez deux métabolismes ?
Non, je pense que mon métabolisme s'est adapté aux deux cultures, aux deux températures, aux deux gastronomies. Et non, je pense être la même, hein, simplement un peu plus ouverte vers cette autre culture qu'est la culture coréenne.
Alors, je sais que l'amour, vous le dites en coréen, me trompe pas. J'y étais pas. Hein, mais pour ce qui est du féminisme, on va y revenir une seconde à cette question, j'ai l'impression que vous le pensez encore. En Simone Veil.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Il suffit d'écouter les femmes.
C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Cela restera toujours un drame.
Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ?
Qui s'en préoccupe ?
La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive,
combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ?
Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
Notre chère Simone Veil en sol majeur, que vous, Ida Dossi, vous auriez peut-être à cœur de traduire en coréen, car la condition des femmes en Corée du Sud vous fait réfléchir. On pourrait évoquer rapidement les 5 principes issus du confucianisme qui mettent la femme tout en bas de l'échelle.
Et effectivement, donc bon, techniquement, le confucianisme n'ostracisait pas vraiment le rôle de la femme. Il se trouve que le traitement qu'il en a été fait en Corée a clairement placé la femme au bas de l'échelle sociale. Et bon, actuellement, la Corée s'est aussi trouvée frappée par le mouvement MeToo de plein fouet. On a énormément de progrès actuellement, la jeunesse se réclame d'autres choses, et les jeunes filles s'affirment, mais les anciens ne les entendent pas. On vient de parler avec l'allocution de Simone Veil de l'avortement. L'avortement est toujours interdit en Corée du Sud. Et il y a de nombreuses toutes petites, toutes jeunes qui tombent enceintes parce qu'il n'y a pas non plus d'éducation sexuelle digne de ce nom.
Et non, puisque vous êtes pure en Corée du Sud, c'est
voilà.
Ça
les jeunes, voilà, on les pense purs, on les pense complètement détachés de ce genre de considérations lubriques et pourtant, bon, la vie va. Et nombreuses sont les toutes petites qui tombent enceintes quelquefois. Les compagnons ne sont jamais inquiétés par ces faits. Et ces petites jeunes filles se retrouvent dans des centres pour accoucher comme on le voyait dans les années 70 en France, pour accoucher, pour confier leurs petits à l'adoption, et c'est dans la Corée d'aujourd'hui.
Et pourtant, il y a eu des figures féministes dans l'histoire de la Corée du Sud. Racontez-nous cette féministe coréenne des années 30.
Alors, Na Ye-seok, c'est quelqu'un que j'aurais bien voulu rencontrer. Je pense qu'elle n'est pas née à la bonne époque. Elle avait donc été mariée quelqu'un qui était quand même érudit, un homme assez libre, libéral. Et puis, finalement, ça s'est très mal passé. Elle est venue en France en expatriation et a remis en question le statut du mariage et de ce statut de femme qui, une fois qu'elle devient femme mariée, qu'elle devient mère, je l'ai vécu, moi, dans la Corée du XXIe siècle, eh bien, se trouve presque rétrogradée.
Et donc, c'est devenu presque votre modèle, puisque votre pays... Bah oui, la Corée du Sud étant devenue votre pays, vous devez bien quand même avoir des figures auxquelles vous rattachez. Mais vous, en tant qu'immigrée, naturalisée, en tant que star étrangère, parce qu'il y a toujours ce mot d'étrangère à côté de ce mot star.
Vous avez raison.
Vous savez votre place, vous, dans cette société ? Est-ce que vous êtes encore cantonnée à ce fameux rôle de kak-dougi ?
Kaktugi, c'est un petit condiment qu'on mange avec le riz, un petit condiment pimenté, donc qui donne du goût certes, mais bon, qui est jamais vraiment le centre, le bol de riz, le principal. Alors, je pense ne plus vraiment être l'huile sur l'eau, le kaktugi du repas, je pense pas. Je pense avoir fait ma place, mais j'ai toujours ce statut à part. En plus, je suis française d'origine, donc les gens disent, elle est française, c'est normal qu'elle soit aussi révoltée, aussi acharnée sur bien des sujets. Donc, voilà. J'imagine que ça doit inspirer un tant soit peu les jeunes coréennes sur bien des sujets. Quand ils regardent ma vie, ça fait maintenant bientôt 9 ans que je suis seule aux manettes de ma... J'étais donc seule aux manettes de ma famille multiculturelle.
Vous pourriez inspirer un film, peut-être un roman.
On verra pourquoi
c'est
pas.
Sait-on jamais.
Sait-on jamais. Mais pour le moment, elles ont vu que je tiens toujours la barre. Et bim, regardez, cette année, je vais me remarier.
Et bim, congratulations. Mais bim, est-ce que vos enfants à vous, qui sont donc de sang mêlé, sont perçus comme des Coréens là-bas?
Non, toujours pas. Sont acceptés, on les adore. Mon aîné a 22 ans aujourd'hui et a décidé d'aller quand même au service militaire.
Ah, c'était une question justement.
Voilà, donc il ira lui. Déjà, il gardera les deux nationalités de manière légale. Ça, c'est un grand changement par rapport au passé. Et sera du coup reconnu socialement comme Coréen à part entière. Il prend la responsabilité d'assumer et de défendre son pays. Ça les touche en plein cœur, les Coréens.
Avoir de lointains ancêtres aux yeux bridés, Ida Dossi.
Je crois pas. J'ai regardé un petit peu globalement les ancêtres. Non, espagnol un peu peut-être, oui. Celte, certainement.
Pas de trace asiatique dans la maison.
Aucune trace asiatique. Mais, du côté de ma mère, mon grand-père était donc officier dans la marine, son père l'était aussi. Et on a donc, du côté de la famille, pas mal de marins, d'officiers qui sont allés en Asie, qui ont ramené énormément de souvenirs. Il y avait des histoires de maîtresses avec l'arrière-arrière-grand-papa qui avait une drôle de chevalière qu'on lui avait offerte. Enfin,
concubine.
Voilà.
Intrigue.
Et donc, il y a toujours eu énormément d'objets d'origine asiatique chez ma grand-mère. Et c'est vrai que c'était assez fascinant. Alors, j'ai eu le privilège de voyager énormément grâce à mes parents. Mais l'Asie est restée pour moi pendant longtemps une terre inconnue qui me fascinait via tous ces objets qui étaient présents dans mon enfance chez ma grand-mère.
Aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive d'aller au temple en vous sentant des leurs?
J'adore aller au temple. Alors, je me sens pas des leurs, mais je suis absolument pas religieuse. Mais je dois avouer que aller au temple, les temples coréens se trouvent souvent dans la montagne. Voyez, les temples japonais sont toujours un peu dans les tons noirs, sombres. En Corée, vous avez les couleurs du Danchong sur une base verte, comme la nature, donc du bleu, du rouge, du jaune, du blanc. Et ça se fond presque dans la montagne. C'est paisible. Et vous avez la moktak qu'on vient d'entendre là. De temps en temps, un petit coup de cloche qu'on frappe. C'est paisible. Et ce sont vraiment des havres de paix dans cette Corée trépidante qu'on trouve dans les villes.
Vous auriez pu vivre, vous pensez, dans un autre pays asiatique que la Corée, comme le Japon, la Chine, le Vietnam?
Alors, c'est une bonne question. Alors, j'adore voyager. J'y voyage régulièrement. Vivre au Japon, je sais pas. J'ai peu finalement de grands amis japonais ou chinois. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a ce côté un peu latin chez les Coréens, un peu émotionnel, qui me parle quelquefois. Et la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à vivre dans ce pays aussi longtemps, c'est parce que c'était la Corée.
Un sol majeur, @rfi.fr.
Deux livres, sinon rien, pour Ida Dossi. Ida au pays du matin clair, ça c'est le premier ouvrage paru chez Jean-Claude Lattès. Et puis le tout nouveau, Corée à cœur, aux éditions Atelier des Cahiers. En sol majeur, avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio. Et bien sûr, ce qu'on préfère, derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Ça nous fait du 15h à Paris. Tania Tsikounas, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec le réalisateur Laurent Bounic. À demain.
Yo. À
do love this.